Escompte dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Vous le savez sans doute, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, elles sont responsables de plus de 17 millions de décès chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale totale. Et les trois quarts de ces décès ont lieu dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'Afrique n'est pas épargnée et ces maladies dites de pays développés se répandent dangereusement sur le continent, si bien qu'on parle de transition épidémiologique. En cause, encore une fois, notre mode de vie, mauvaise alimentation, manque d'activité physique, obésité, tabagisme et utilisation nocive de l'alcool. Il faut presque tout revoir et remettre en cause nos mauvaises habitudes, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors comment prévenir ces maladies cardiovasculaires? Quels sont les traitements existants? Où en est la recherche? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos trois invités. Le professeur Roland Nguetta, cardiologue intervenant à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le docteur Yves Moncam, cardiologue à Douala et vice-président de la Société camerounaise de cardiologie. Et le professeur Leïla Abid, secrétaire général de la Société tunisienne de cardiologie ASFAX. Et évidemment, comme tous les jours, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Quelles sont les maladies cardiovasculaires les plus répandues en Afrique, professeur Abid?
Bonjour. En fait, les maladies, comme vous l'avez dit, les maladies cardiovasculaires constituent actuellement en Afrique, comme en Europe, un fléau. Et on peut s'attendre même à une catastrophe sanitaire si on ne joue pas sur la prévention de ces maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes sont essentiellement l'hypertension artérielle. Si par exemple je prends l'exemple de la Tunisie et même en Afrique, une personne sur trois âgée de plus de 30 ans, il est hypertendu. Et cette hypertension artérielle expose la même chose à d'autres maladies cardiovasculaires. Il y a tout ce qui est la pathologie coronaire. Donc c'est en fait un rétrécissement au niveau des artères qui nourrissent le cœur. Elle est responsable de ce qu'on appelle généralement la complication la plus redoutable, c'est l'infarctus de myocarde. C'est une qui peut entraîner une mort au niveau du muscle, d'une partie du muscle cardiaque. Il y a aussi une autre maladie cardiovasculaire qui devient de plus en plus répandue. C'est l'insuffisance cardiaque. C'est le cœur qui est incapable d'éjecter le sang, d'éjecter la quantité d'oxygène suffisante à l'organisme pour qu'il assure ses différentes fonctions.
Alors, on va détailler évidemment toutes ces maladies cardiovasculaires, on va vous expliquer comment s'en prémunir. Mais tout d'abord, il faut savoir que si vous êtes ici présent à Paris, c'est parce que vous participez tous les trois aux 28e journées européennes de la Société française de cardiologie qui ont débuté hier. Alors, avant de vous redonner la parole, nous allons accueillir au téléphone le professeur Martine Gillard. Bonjour Martine Gillard.
Bonjour, je suis désolée pour la qualité de la ligne parce que je suis en plein milieu de la conférence et du coup c'est difficile de s'isoler.
Eh bien écoutez, nous sommes en direct et nous allons nous adapter, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes donc professeur de cardiologie au CHU de Brest, Martine Gillard, et à partir de demain, si mes informations sont bonnes, vous serez officiellement présidente de la Société française de cardiologie. Bravo à vous donc. Quelques mots sur ces journées donc qui ont pour thématique cœur, vaisseau et métabolisme. Pourquoi cette thématique?
Eh bien, parce que je pense que c'est complètement d'actualité, que en effet le cœur est un organisme qui subit l'influence de nombreux facteurs, dont le métabolisme, dont les facteurs de risque, et qu'il est fondamental que nous réfléchissions au cours de ces temps modernes, réfléchissions à cette interaction. Alors nous avons fait une réunion au début du congrès avec le service la Société française d'endocrinologie et la Société francophone de diabétologie. Et on a pu ainsi interagir, échanger et voir justement l'influence de tous ces facteurs sur la maladie cardiovasculaire.
Alors, il faut peut-être rappeler que le diabète touche plus de 422 millions de personnes dans le monde et qu'il est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Il faut donc une prise en charge spécifique des patients diabétiques lorsqu'ils présentent des pathologies cardiovasculaires. Est-ce à dire que ça ne se faisait pas avant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Comment vous voyez la situation, professeur Martine Gillard?
Alors, je pense que ça se faisait. On a toujours quand même une bonne interaction avec nos sociétés collègues que sont l'endocrinologie et la diabétologie, mais il faut encore plus le signaler. Alors, vous savez, quand un patient est diabétique, il a un niveau de seuil de douleur qui est diminué, et très souvent, la maladie coronaire du diabétique n'a pas les mêmes symptômes, n'entraîne pas les mêmes symptômes que chez un patient qui n'a pas de diabète, et donc c'est pour ça qu'il faut être encore plus vigilant, et on travaille de concert avec nos collègues pour savoir à partir de quand il faut les dépister. Est-ce qu'il faut les dépister de façon systématique? Alors à un moment donné on le faisait, mais comme toujours dans les temps modernes, on est un peu revenu là-dessus, mais il faut réfléchir justement à quel moment on doit alerter nos patients diabétiques du risque de la maladie cardiovasculaire.
Alors pendant ces 4 jours, il y aura des parcours thématiques pour illustrer les principales avancées diagnostiques et thérapeutiques. Quelles sont ces avancées? Est-ce que vous pouvez nous en présenter juste une ou deux peut-être?
Alors c'est très complexe parce qu'il y a des avancées donc à peu près dans tous les domaines de la surspécialisation de la cardiologie. Donc les grandes avancées sont la place de l'imagerie qui devient de plus en plus prégnante, qui devient de plus en plus importante, aussi bien en ce qui concerne l'écho que l'imagerie en couple. Et on a la place également des thérapeutiques interventionnelles percutanées pour éviter d'être amené à avoir recours à la chirurgie plastique. Et donc toutes ces différentes possibilités à la fois de diagnostic et de traitement vont être expliquées au cours de ces journées de cardiologie. Alors, vous le savez, on a développé des studios pratiques qui nous permettent d'avoir une vraie interaction entre les experts et nos cardiologues qui ont une pratique plus en contact avec les patients. On a développé un parcours jeune pour que nos jeunes cardiologues en formation puissent bénéficier d'experts également et d'avoir leurs propres interrogations, peut-être plus basiques, mais souvent aussi très techniques. Et donc, ces journées constituent un ensemble de formations qui sont, à mon avis, de haut niveau et qui sont très appréciées par par les cardiologues, puisqu'ils sont là, présents, malgré les difficultés actuelles.
Oui, alors on va en rester là, professeur Martine Gillard, car la liaison téléphonique n'est vraiment pas très bonne. En tout cas, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes professeur de cardiologie au CHU de Brest et futur président donc de la Société française de cardiologie.
Priorité Santé sur RFI.
Eh oui, vous écoutez Priorité Santé aujourd'hui, nous parlons des maladies cardiovasculaires. Alors, professeur Roland Guetta, tout à l'heure, le professeur Abin nous parlait de l'hypertension, notamment. Moi, j'ai un mail entre les mains, c'est Salamatou de Ouagadougou au Burkina qui nous dit « Je souffre d'hypotension, est-ce que j'ai les mêmes risques que quelqu'un qui souffre d'hypertension ? Et pourquoi ne parle-t-on jamais d'hypotension ?» Et c'est vrai que dans cette émission, on insiste sur l'hypertension et on ne parle pas souvent d'hypotension. Donc, expliquez-nous de quoi il s'agit et répondez, s'il vous plaît, à la question de Salamatou.
Ok, merci. Effectivement, on parle beaucoup plus d'hypertension artérielle parce qu'on connaît les dégâts que cette hypertension artérielle peut causer. Mais il y a aussi l'hypotension artérielle qui peut se retrouver dans certaines affections particulières. C'est-à-dire que d'abord, le patient, effectivement, qui est hypertendu peut, à la suite d'un traitement pas très adapté, passer en hypotension artérielle. Donc, il y a cette situation-là. Mais, comme je le disais, il y a des maladies comme, par exemple, des problèmes thyroïdiens ou d'autres problèmes hormonaux qui peuvent finalement conduire le patient à avoir aussi une hypotension artérielle. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on connaît, qui est heureusement pas plus fréquente que l'hypertension artérielle, mais qui quand la situation se présente, nous prenons en charge ces patients.
Docteur Yves Moncam, vous êtes cardiologue à Douala au Cameroun. Donc, est-ce que les événements aigus comme les infarctus ou les AVC sont fréquents?
Alors, disons que nous voyons donc beaucoup d'AVC, qui est l'une des principales complications de alors l'hypertension artérielle. Et chez nous, donc l'hypertension artérielle est souvent très sévère, les chiffres sont très élevés, et lorsque le patient donc n'est pas pris en charge, une des principales donc complications qu'on voit est l'AVC. Et étant donné la prévalence élevée de alors l'hypertension artérielle, on voit donc un certain nombre d'AVC. En ce qui concerne l'infarctus du myocarde, disons qu'il est en pleine expansion, et je pense que l'infarctus du myocarde existe depuis longtemps en Afrique subsaharienne chez le sujet de race noire, mais c'est qu'il n'était pas dépisté. Hein. Donc il y a un gros problème de dépistage parce que tous les facteurs de risque susceptible de provoquer un infarctus du myocarde sont présents. Ils sont présents, mais le problème, c'est le dépistage. Et aussi, alors l'Africain, en général, a tendance à se rendre à l'hôpital lorsqu'il est vraiment malade. Il peut avoir une douleur thoracique, il va d'abord attendre que ça passe, après si ça passe, il laisse tomber, il ne s'appesantit plus donc sur ça, et ce n'est que si la douleur persiste qu'il est vraiment gêné, qu'il ira à l'hôpital. Donc je pense que la maladie coronarienne et notamment l'infarctus du myocarde est beaucoup plus fréquente que ce que nous voyons actuellement.
Professeur Leïla, oui, vous voulez rajouter un mot, pardon?
Juste, je voulais dire, on a des études épidémiologiques, aussi bien en Afrique qu'en Tunisie, que la mortalité cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité, et ça, c'est à peu près 30% de la mortalité qui est due à des pathologies cardiovasculaires, et c'est essentiellement l'infarctus de myocarde. Mmh. Et professeur Manquin a soulevé un élément très important, c'est que les patients négligent leur symptomatologie, ils ont des douleurs thoraciques, et ils ne sont pas suffisamment sensibilisés et éduqués pour donner de l'importance à cette douleur thoracique et pour qu'ils consultent en urgence. Parce qu'en matière d'infarctus de myocarde, chaque minute, elle compte pour sauver la vie de ses patients.
Professeur Roland Guetta, comment est-ce qu'on explique l'augmentation de ces maladies sur le continent africain et dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires? Mais peut-être focalisons-nous sur l'Afrique. On parle d'explosion de ces pathologies.
Oui, mais parce que c'est les facteurs de risque qui sont connus, qui sont bien identifiés, ne sont pas...
Ce que je rappelais dans le sommaire, donc tabagisme, voilà, alcool nocif, hypertension,
absolument,
manque de sport,
obésité, ces facteurs de risque ne sont pas totalement contrôlés. Et le principal facteur de risque chez nous, en Afrique subsaharienne, c'est l'hypertension artérielle. Et on connaît les dégâts de l'hypertension artérielle. Mes collègues ont insisté beaucoup sur l'infarctus du myocarde, qui est finalement aussi une des complications de cette hypertension artérielle. Mais il y a aussi l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et les accidents vasculaires cérébraux.
Et notre mode de vie, on met souvent en cause notre mode de vie, justement absence de sport, obésité, mauvaise alimentation. Ça, dans quelle mesure ça participe à l'émergence de ces pathologies, Yves Moncam?
Alors, ce que je voulais dire, par rapport à ce qu'a dit le professeur Nguetta, c'est que souvent, ces facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont silencieux. On peut être hypertendu avec des chiffres de tension très élevés et ne rien ressentir du tout. On peut être diabétique et n'avoir aucun symptôme, et même chose pour l'hypercholestérolémie. Donc, il y a un gros travail de prévention à faire. Il faut informer les patients, inciter même ceux qui ont l'impression de se sentir bien à partir d'un certain âge d'aller voir un médecin pour faire un bilan sommaire, prise de la tension, quelques examens de sang, et c'est ce qui est relativement difficile à obtenir. Alors l'information des
pourquoi
patients.
Pourquoi par manque d'intérêt des patients, par manque de moyens? Parce qu'on peut se douter que le prix de la consultation peut être problématique en Afrique subsaharienne, on le sait.
Enfin, moi, je pense que c'est plutôt un problème d'information. Il faut que les gens soient mieux informés. Alors dans les villes, on peut à peu près le faire, mais dans les zones rurales, parfois nous sommes obligés d'organiser des campagnes de dépistage. Il faut aller vers les gens et mesurer la tension, faire une glycémie, et c'est comme ça que l'on arrive donc à dépister ces facteurs de risque cardiovasculaire, et lorsqu'ils sont pris en charge le plus précocement donc possible, il y a moins de risques de faire soit une maladie cardiovasculaire, soit une complication donc cardiovasculaire.
Professeur Laïla Abid, est-ce que le facteur héréditaire est important dans les maladies cardiovasculaires? Oui. Si quelqu'un de sa famille a une pathologie, faut-il aller consulter plus régulièrement ou plus tôt peut-être?
Oui, le facteur de risque cardiovasculaire, c'est un facteur primordial qu'il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Si on a dans la famille des antécédents, par exemple d'hypertension artérielle ou d'infarctus de myocarde, il faut consulter précocement, il faut faire des examens systématiques à partir de l'âge de 40 ans parce qu'on est plus exposé par rapport à la population générale à développer ces maladies cardiovasculaires.
Et c'est-à-dire
parfois, excusez-moi, il y a des gens à l'âge de même 40 ans et voire même moins, ils font un infarctus de myocarde ou ils développent l'hypertension. On est en train de voir même l'hypertension à l'âge de 30 ans et même à l'âge de 20 ans pour des gens qui ont des antécédents familiaux avec le changement de mode de vie, le stress, l'alimentation, le manque d'activité et tout. Donc là, c'est un facteur parfois primordial et parfois c'est le seul facteur qui prédispose au développement de ces maladies cardiovasculaires.
Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes dont un des membres de la famille souffre d'une de ces pathologies? C'est quoi donc? Aller consulter, mais en bonne santé, c'est bien manger, faire du sport, des choses comme ça, aussi basiques que ça.
Donc, aller consulter précocement, mais aussi il faut jouer sur la prévention, comme l'a dit professeur Moncam. Donc, l'activité sportive régulière, manger de façon saine, les légumes, les fruits, la prise en charge donc de précocement aussi de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Et là, je reviens pour l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, on considère comme la maladie silencieuse mortelle, et parce que les patients ils sentent rien, donc ils ont du mal à accepter qu'ils sont hypertendus. Donc, je prends pas de médicaments, je ne sens rien. Et là, parfois, il y a des signes qui sont pas très importants. Par exemple, les céphalées, les gens, ils les négligent. C'est des céphalées, c'est des fatigues. Or, ça peut être en rapport avec l'hypertension. Bouffées de visage, bouffées de chaleur, des petits picotements que les gens négligent. Et en fait, ils sont en rapport avec l'hypertension artérielle qui n'est pas à diagnostiquer. Et donc, dès l'intérêt de dépistage et de la prévention.
Docteur Moncam, vous devez connaître le professeur Jean-Claude Bagna, célèbre diabétologue de Yaoundé. Moi, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises parce qu'on n'arrête pas de dire à nos auditeurs qu'il faut faire du sport, mais le professeur Bagna me disait allez faire un jogging dans les rues de Yaoundé sans risquer votre vie, c'est compliqué. On a aussi ce problème, on dit aux populations, mangez correctement, faites du sport, et on ne leur donne pas la possibilité de le faire.
Oui, ça c'est vrai, mais bon, ceux qui veulent vraiment le faire, ils le font. Et puis chacun.
On peut le faire le long de la corniche à Dakar ou sur les plages à Abidjan. Mais à Yaoundé, par exemple, c'est plus compliqué.
Oui, mais après moi, je pense que après que lorsque l'on a la volonté, on trouve toujours une solution. Et puis bon, sport en fait. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas le sport, mais je leur dis
c'est
toujours.
C'est leur droit.
Pour faire de la marche.
mais je leur dis toujours justement que n'importe qui peut marcher. Et cet exercice physique doit être fait à son niveau, chacun à son niveau de performance. Et oui, que c'est surtout la durée qui est importante, vraiment, disons qu'il n'est pas question de performance. Et pouvoir aussi le faire assez régulièrement.
On parle plutôt de marcher un peu rapide, 30 minutes par jour, c'est ça, professeur Abid, ça suffit?
C'est à 30 minutes par jour, même un jour sur deux. Mais aussi, je veux bien insister sur l'intérêt de diminuer la consommation de tout ce qui est salé.
Eh oui, mais ça, on va y revenir, parce que notamment avec les fameux bouillons cubes qui font des ravages en Afrique, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission, car c'est déjà la fin de la première partie. Restez donc avec nous, on se retrouve juste après le Flash Info, dans exactement 3 minutes 30. Priorité santé à suivre.
Priorité santé. Igor Strauss.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des maladies cardiovasculaires qui sont, rappelons-le, la première cause de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, elles sont responsables de plus de 17 millions de décès dans le monde, dont les trois quarts ont lieu dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors, comment prévenir ces maladies? Quels sont les traitements? Où en est la recherche? Suite de notre débat avec nos trois invités. Le professeur Leïla Abid, secrétaire général de la Société tunisienne de cardiologie à Sfax, le professeur Roland Guetta, cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en Côte d'Ivoire bien évidemment, et le docteur Yves Moncam, cardiologue à Douala et vice-président de la Société camerounaise de cardiologie. Et puis, à la fin de cette émission, nous retrouverons le docteur Catherine Solano pour sa chronique sexualité. Aujourd'hui, il sera question d'artères et d'érection, tout un programme. Et évidemment, comme tous les jours, nous attendons donc vos questions, vos réactions. Notre numéro, le 33 1 84 22 75 75. RFI. Alors, à la fin de la première partie de cette émission, professeur Leïla Abid, vous vouliez dire un mot du sel. Et évidemment, on sait que l'industrie alimentaire a une part de responsabilité. Hein. Je pense, on l'évoquait tout à l'heure, à ces fameux bouillons cubes extrêmement utilisés dans la cuisine en Afrique noire notamment.
Oui, en fait, toutes les études ont démontré qu'il y a une relation entre la consommation du sel et les maladies cardiovasculaires, et plus particulièrement l'hypertension artérielle. Donc, plus on consomme de sel, plus on est à risque de développer l'hypertension et ces maladies cardiovasculaires. Donc, et malheureusement, actuellement, on est de grands consommateurs de sel, aussi bien donc tout ce qui est avec l'industrialisation des aliments, tout ce qui est les fast-foods, les conserves, donc les aliments qui sont conservés, qui sont hyper riches en sel. Et il y a aussi des aliments traditionnels qu'on prépare chez nous, qui sont conservés, ils sont hyper riches en sel. Et là, peut-être, il est temps de changer nos habitudes et d'améliorer notre façon de consommer moins salé, des trucs qui sont plus naturels, qui contiennent moins de sel, pour diminuer donc le risque de développer ces maladies cardiovasculaires, cette hypertension artérielle. Et là, il faut peut-être jouer auprès, parce que le goût de sel, c'est un goût qui s'éduque. Il faut jouer auprès de la jeunesse, auprès des enfants, pour gagner à long terme en matière de cette mortalité cardiovasculaire.
Faire de l'éducation nutritionnelle, professeur voilà. Roland Guetta, c'est ce que vous tentez de développer, vous aussi, en Côte d'Ivoire.
Oui, absolument. La consommation du sel est un vrai problème, parce que nos aliments, nos plats à la base sont extrêmement riches en sel. Vous savez qu'on consomme en Afrique beaucoup de sel, non seulement dans les bouillons, mais aussi le sel rajouté par les dames dans l'alimentation pour l'assaisonnement des plats. Donc on sait aussi que l'Africain est sensible à ce sel-là, et chez les patients qui réussissent effectivement à baisser leur consommation en sel, très rapidement, ça a un impact significatif sur les chiffres tensionnels.
Parlons un petit peu de la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires. Docteur Yves Moncam, est-ce qu'elle est compliquée, cette prise en charge?
Elle est parfois compliquée, bon, parce que certains patients ont du mal à admettre qu'ils doivent donc poursuivre leur traitement de manière permanente, de manière indéfinie. Et c'est pour ça qu'il est important que, par exemple, un patient hypertendu revienne en consultation au moins tous les 3 ou 4 mois, même s'il a l'impression que tout va bien, même s'il prend bien ses médicaments. Donc tout ça, c'est une question donc d'information des patients. Et en dehors du traitement médicamenteux, il y a le traitement non médicamenteux, donc toutes les mesures hygiéno-diététiques, notamment en matière d'alimentation, en matière d'exercice physique, qui sont extrêmement importants.
Alors ça, on en a déjà dit un mot, mais j'aimerais qu'on s'intéresse au plateau technique, tout simplement, aux professionnels de santé. Sont-ils en nombre suffisant? Je pense aux cardiologues. Non. Sont-ils assez bien formés? Un petit mot, professeur Roland Guetta, par rapport à ça.
Oui, si vous permettez, je voudrais, puisqu'on parlait de médicaments, rebondir sur la qualité des médicaments en Afrique, justement, sur les médicaments qui sont proposés aux patients. Nous avons réalisé, en collaboration avec d'autres collègues africains et l'équipe française, une étude dans 12 pays d'Afrique subsaharienne, qui a clairement montré que 16% des médicaments utilisés pour la prise en charge de ces affections cardiovasculaires sont des faux médicaments. Donc c'est un vrai problème. Et quand on regarde spécifiquement les médicaments dans l'hypertension artérielle, on s'aperçoit que 24% des médicaments qui sont prescrits pour traiter l'hypertension artérielle sont des faux médicaments. Donc c'est un véritable problème qu'il va falloir rapidement prendre à bras le corps assez rapidement. Pour revenir sur les plateaux techniques, effectivement, c'est un vrai problème en Afrique, on le sait. Les structures de santé ne sont pas toujours dotées des plateaux qu'il faut. Parfois même, le simple tensiomètre pour prendre la tension artérielle du patient et diagnostiquer une hypertension artérielle n'est parfois pas disponible. Vous avez également évoqué le problème de la formation des médecins. Il y a très peu de cardiologues en Afrique, on le sait. Il y a de gros efforts qui ont été faits ces dernières années pour augmenter le nombre de cardiologues en Afrique
subsaharienne. Et pourquoi on en manque en raison de la fuite des cerveaux, tout simplement un manque de formation à la base?
Non, manque de formation à la base, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de formation de cardiologues en Afrique. Il y a des écoles qui sont bien connues. La Côte d'Ivoire a eu la chance avec l'Institut de cardiologie, qui est un centre qui existe depuis de nombreuses années, d'être une école de cardiologie. On en a formé beaucoup. Actuellement, il y a 80 à 100 cardiologues qui sont en formation en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'école sénégalaise qui forme des cardiologues. Mais globalement, le ratio cardiologue est très faible en Afrique. Et les médecins généralistes aussi, puisque quand on parle de maladies cardiovasculaires, c'est pas que les cardiologues qui sont engagés dans ce combat-là. Il y a aussi les médecins généralistes, donc eux aussi qui sont
qui doivent référer ensuite vers les spécialistes. Ensuite.
Voilà. Même les paramédicaux, donc les infirmiers aussi sont impliqués. Et là aussi, il y a un vrai problème de formation continue et puis de formation à la base qui doit être résolu.
Est-ce que ce problème de formation touche aussi la Tunisie, Leïla Abid? Je crois que les pays du Maghreb sont quand même un peu plus développés en matière de santé à ce niveau-là.
Oui, en Tunisie, plus particulièrement, en fait, on a quand même les moyens humains. Par exemple, en Tunisie, on a à peu près 600 cardiologues, dont 100 cardiologues sont des cardiologues interventionnels. On a de très nombreux centres hospitaliers en secteur étatique, aussi bien privé. On a 10 cliniques, un nombre de cliniques très important qui sont dotées de technologies de pointe, de nouvelles technologies. Donc, en Tunisie, je pense que la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires, je peux pas dire qu'elle est excellente. Il y a du travail à faire, mais on a les structures suffisantes et les moyens humains qui sont suffisants, voire même en excès, pour prendre en charge ces patients-là.
Docteur Yves Moncam, au Cameroun, très concrètement, qu'est-ce qui vous manque en termes de plateau technique toujours, hein? De quoi avez-vous besoin? Quels sont les besoins des patients et des médecins pour bien exercer leur profession?
En tout cas, le bon plateau technique, et on peut dire qu'il est vraiment
Et là, je parle dans les grandes villes, hein, Douala, Yaoundé, on n'évoque même pas les questions des campagnes, qui est encore un autre problème.
Non. En tout cas, il y a un problème de plateau technique qui est...
Mais lesquels, concrètement? Citez-nous ce qu'il vous faudrait.
Par exemple, tout ce qui est donc la cardiologie donc interventionnelle, la chirurgie cardiaque, donc tout ça n'est pas encore bien implanté. Et donc tout à l'heure aussi, on parlait de la formation. Alors beaucoup de médecins généralistes, c'est eux qui normalement qui sont en première ligne pour voir les patients hypertendus. Et alors nous sommes en train, au niveau de la Société camerounaise de cardiologie, par exemple, de créer un module d'aptitude à la prise en charge de l'hypertension artérielle pour les médecins généralistes et même pour certains infirmiers, parce que dans de nombreuses zones du Cameroun, il n'y a même pas de médecins généralistes, et ce sont les infirmiers qui sont donc chargés donc de voir ces malades. Ils peuvent les prendre en charge dans un premier temps avant de les référer aux spécialistes.
Professeur Nguetta, vous vouliez rajouter un petit mot?
Non, sur le plateau technique, je voulais dire qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui est un institut qui est le centre de référence donc des maladies cardiovasculaires et qui a la chance d'avoir un plateau technique de bon niveau. Je suis cardiologue interventionnel et j'ai la chance de pouvoir justement pratiquer la cardiologie interventionnelle à Abidjan, à l'institut, puisqu'on a une salle de cathétérisme cardiaque dédiée. On On a également de la chirurgie cardiaque et ce qu'il faut pour faire de l'imagerie cardiovasculaire. Bien entendu, ça reste à l'échelle nationale quelque chose de bien, mais à l'échelle sous-régionale également. Mais effectivement, il faut décentraliser ces activités-là, donc aussi équiper les centres régionaux, les centres ruraux du plateau technique nécessaire à la prise en charge de ces affections cardiovasculaires.
Et vos propos font réagir, professeur Leïla Abid, je vous passe la parole.
En effet, je le confirme, je profite de la présence de professeur Anguetta. En effet, on a eu l'occasion en tant que société tunisienne de cardiologie de visiter Abidjan, et on a visité ce centre de cardiologie. C'est un excellent centre doté d'une salle de cathé, en plus d'excellents cardiologues qui, certes, ils sont en train d'excellents services pour leurs patients. Et là, on est vraiment très content de cette collaboration avec la SICAR, la Société Ivoirienne de Cardiologie. Et certes, je pense que cette collaboration avec nos amis africains subsahariens, elle a objectif principal, c'est d'améliorer la prise en charge de nos patients, des pathologies cardiovasculaires, et donc préserver la santé de nos patients. Aussi, docteur Guetta, il était présent lors de notre congrès à Djerba, le congrès de la société, qui a traité ces différentes pathologies cardiovasculaires. J'espère du fond de mon corps qu'on gardera cette collaboration, même avec les autres sociétés savantes.
Je ne sais pas laquelle choisir. La première est la plus jolie, la seconde est la plus gentille. Entre les deux, mon cœur balance, ça balance, ça rebalance. La plus jolie s'appelle Fanta, la plus gentille c'est Amina. Entre les deux, vraiment j'hésite, pourtant il faut que je me décide. Mais toujours mon cœur balance, ça balance, ça rebalance. Quand je suis avec la jolie Fanta, moi je pense à la gentille Amina. Quand Amina est près de moi, mes pensées s'envolent vers Fanta. Et toujours mon cœur balance, ça balance, ça rebalance.
Écoutez Priorité Santé sur RFI, vous écoutez Daouda surtout. Aujourd'hui, nous parlons des maladies cardiovasculaires avec nos invités. Le professeur Roland Guetta, cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le docteur Yves Mokam, cardiologue à Douala et vice-président de la Société camerounaise de cardiologie. Et le professeur Leïla Abid, secrétaire générale de la Société tunisienne de cardiologie ASFAX. Et évidemment, continuez à nous appeler au 33 1 84 22 75. 75, et c'est ce qu'a fait Claire, justement, qui nous appelle de Paris. Bonjour Claire.
Bonjour, bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Quelle est votre question, Claire?
Alors, ma question est que j'ai souvent des palpitations cardiaques. Donc, je voulais savoir si ces palpitations-là ont un rapport avec les maladies cardiovasculaires.
Et je crois que vous êtes diabétique et que votre diabète est équilibré, c'est ça?
Tout à fait, oui. Mon diabète, il est équilibré. Ça fait 5 ans que je suis diabétique. Et en plus de cela, je suis aussi hypertendue. Mais de temps à autre, vraiment, c'est régulier les palpitations cardiaques.
Alors, bah écoutez, je ne sais pas qui veut. Professeur Roland Guetta, qu'est-ce qu'on peut dire à Claire?
Oui, merci Claire pour cette question. Effectivement, ces palpitations peuvent être liées au problème d'hypertension et de diabète, puisqu'on sait que l'hypertension et le diabète peuvent avoir un impact directement sur le muscle cardiaque, et finalement ces anomalies du muscle cardiaque peuvent déboucher sur ces palpitations-là. Ce qu'il faudrait, c'est de clairement identifier la cause de ces palpitations. C'est vrai que Claire nous dit qu'elle a fait un électrocardiogramme qui n'a pas retrouvé d'anomalie. Mais on peut également proposer à Claire un électrocardiogramme sur 24 heures, qui s'appelle un Holter ECG. C'est un appareil qu'elle porterait sur l'ensemble de la journée, qui pourrait, justement, en cas de palpitation, enregistrer l'anomalie cardiaque responsable de ces palpitations. Également réaliser une échocardiographie, parce que l'hypertension peut, comme je disais, agir sur le muscle cardiaque, et c'est l'échocardiographie qui permettra éventuellement de préciser l'anomalie cardiaque qui pourrait être à l'origine de ces palpitations.
Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, Claire ?
Ah, tout à fait, docteur, tout à fait.
Alors moi, je ne suis que le journaliste, mais le docteur était à mes côtés. Ah, vous, attendez, alors on a un deuxième médecin qui va compléter l'information du professeur Ngueta. Yves Moncam.
Oui, alors je suis parfaitement d'accord avec tout ce que le professeur Ngueta a dit, mais il faut aussi savoir quels sont les médicaments antihypertenseurs qu'elle prend, parce qu'il y en a certains qui peuvent provoquer des palpitations, notamment les inhibiteurs calciques. Et puis, deuxième chose, elle dit qu'elle a pris du poids. Et alors, le fait d'avoir pris du poids, lorsqu'elle fait un effort, lorsqu'elle marche, ça peut être source de palpitations également.
Bon, bah écoutez, alors là, Claire, vous avez vraiment une réponse parfaite. Merci, en tout cas, de nous avoir appelés depuis Paris. Très bonne journée à vous. Alors, on avait Mariam, malheureusement, on l'a perdue, mais je vais me faire son porte-voix. Mariam nous appelait donc de Bamako pour nous dire qu'elle a eu de l'hypertension diagnostiquée pendant sa grossesse, une grossesse de jumeaux. Et elle voudrait donc savoir, professeur Leïla Habib, pourquoi sa grossesse l'a rendue hypertendue, finalement.
Oui, en général, la femme enceinte, elle est exposée. Elle peut développer de l'hypertension artérielle, surtout à la fin, à partir du quatrième mois de la grossesse, et surtout si elle a une grossesse GMLR. Donc la grossesse en elle-même, c'est un risque qui prédispose au développement de l'hypertension artérielle chez les femmes, et surtout si l'on a des antécédents d'hypertension artérielle dans la famille. Et là, cette hypertension artérielle, Elle peut disparaître juste après l'accouchement. Donc là, c'est la première possibilité, c'est-à-dire elle n'avait pas d'hypertension. Mais la deuxième possibilité, elle peut garder l'hypertension artérielle, comme je l'ai dit, si elle avait des antécédents et si elle a un certain poids, s'il y a un peu d'obésité. Et je pense que pour Madame Mariam, c'est le cas là. Elle a gardé de l'hypertension artérielle après sa grossesse. Et donc là, il faut la traiter. À côté des règles génétiques, il faut qu'elle prenne son médicament. Et là, je pense qu'elle nous parlait d'un médicament, le Mitildoba. Le Mitildoba, on peut le donner au cours de la grossesse. Déjà, c'est la molécule recommandée. Mais après, une fois elle a accouché il y a 2 ans, il vaut mieux peut-être changer de molécule pour un meilleur équilibre de chiffre tensionnel et une meilleure prise en charge.
Eh bien, écoutez, merci infiniment pour toutes ces précisions. J'espère que Mariam était à l'écoute. Alors, on va se poser la question, sommes-nous tous égaux devant les maladies cardiovasculaires? Et en disant ça, il faut peut-être rappeler que la pathologie cardiovasculaire constitue la première cause de mortalité chez les femmes, loin devant les cancers. Et ça, professeur Roland Ngueta a tendance à l'oublier.
Absolument. Effectivement, les femmes, c'est vrai que dans les maladies cardiovasculaires, pendant longtemps, on se disait qu'elles n'étaient pas très, très, très concernées. Mais on s'est aperçu que malheureusement, chez les femmes, les affections cardiovasculaires sont sous-diagnostiquées. Nous avons sous-diagnostiquées parce que souvent rattachées à d'autres affections, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, il est clair que la mortalité cardiovasculaire chez la femme est nettement en progression, liée essentiellement à la survenue justement des facteurs de risque cardiovasculaire chez les femmes. Il y a des femmes qui commencent à fumer de plus en plus tôt. Et il y a aussi des femmes qui ont de l'hypertension artérielle, qui sont en surcharge pondérale. Et qui développent malheureusement de l'infarctus du myocarde et qui est à l'origine de cette mortalité cardiovasculaire de plus en plus élevée chez les femmes.
Mais alors, professeur Leïla Habib, par exemple, concernant les syndromes coronaires aigus, j'ai lu que les femmes présentaient plus de facteurs de risque et de comorbidité que les hommes. Comment cela se fait-il? Est-ce que les hormones ont un rôle? Comment on l'explique?
Oui, en effet, les femmes, jusqu'à la ménopause, on peut dire qu'elles sont un peu protégées par leurs hormones, par l'œstrogène. Donc c'est rare qu'une femme fait un syndrome coronarien avant l'âge de 45 ans, 10 ans, parce que, entre guillemets, elle est protégée par ses hormones. Mais après, une fois elle est passée à la ménopause, elle va être exposée de la même façon que l'homme à ces maladies cardiovasculaires, surtout si elles cumulent des facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, l'hypertension, l'obésité, la sédentarité et le côté génétique, le côté familial. Et ça n'empêche que ces dernières années, malheureusement, on est en train de plus en plus d'être confronté à des problèmes de syndrome coronarien chez des femmes plus jeunes, parce que malheureusement, on est en train de voir cette flambée de facteurs de risque cardiovasculaire chez la femme, par exemple, essentiellement le tabac, le tabagisme, l'obésité, le stress et le diabète. Donc là, la femme, malheureusement, n'est plus protégée par ses hormones parce qu'il y a ce changement de mode de vie et cette augmentation de la fréquence des facteurs de risque cardiovasculaire.
Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Alors, je voudrais qu'on en revienne un petit peu à ces 28e journées européennes de la Société française de cardiologie qui ont débuté donc hier et qui ont réuni 8000 professionnels venus du monde entier. Est-ce que les échanges sud-sud sont importants, Yves Moncade ? Parce que ça, c'est l'occasion justement de vous rencontrer, vous, entre médecins, tunisien, ivoirien, camerounais. Est-ce que c'est important?
Oui, absolument. Et c'est même pour nous donc un grand lieu de rencontre parce qu'il y a un groupe de cardiologie tropicale à la Société française de cardiologie et ces journées européennes sont pour nous donc l'occasion de nous retrouver donc dans l'enceinte du congrès, en fait, de débattre de certains donc problèmes qui nous sont propres. Et puis alors, ça nous permet aussi un meilleur contact avec nos collègues donc du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, et c'est toujours donc très très enrichissant.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé, suite et fin. Et nous retrouvons à présent le docteur Catherine Solano pour sa chronique sexualité. Bonjour Catherine.
Bonjour Igor. Et puis je vais dire bonjour aussi au professeur Leïla Habib, au docteur Yves Moncade et bien sûr au professeur Roland Guetta que je connais et dont j'ai visité le super institut de cardiologie à Abidjan avec RFI.
Eh bien écoutez, le message est passé, merci à vous Catherine. Oui. Catherine, revenons-en à votre chronique parce que le temps presse malheureusement. Quand on a un problème d'érection après 50 ans, il faut penser aux artères. Qu'est-ce qui change concrètement à 50 ans pour les hommes?
Ben, ce qui change à 50 ans, c'est que quand un homme, à partir de cet âge-là, s'il a un problème d'érection, une érection de mauvaise qualité, ça peut être le signe que ses artères sexuelles sont en train de se boucher ou de rétrécir de diamètre. Et du coup, le sang n'arrive plus en débit suffisant au niveau du pénis. C'est pour ça qu'il y a des érections qui sont pas bonnes. Donc, ce que je veux insister pour dire, c'est qu'un problème d'érection à partir de 50 ans, c'est pas seulement un problème sexuel, c'est une alerte.
Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement, un problème d'artère ?
Ben, ça veut dire tout simplement que comme dans notre corps, tous nos organes sont irrigués par des artères et elles leur apportent du sang et de l'oxygène. Et si vous avez une artère rétrécie, où que ce soit, l'organe qu'elle irrigue, il va recevoir moins d'oxygène, moins d'énergie, moins d'aliments et il va fonctionner beaucoup moins bien. Et au niveau du pénis, ça provoque des pannes. Et le problème, c'est que quand les artères du pénis sont rétrécies, il y a un risque que d'autres artères du corps soient rétrécies, en particulier les artères du cœur et du cerveau. Et je parle surtout d'elles parce que c'est elles qui peuvent occasionner le plus de dégâts quand elles s'abîment. Donc ça signifie que si un homme de plus de 50 ans a des pannes, il a peut-être un risque de faire un infarctus ou un AVC, d'où l'importance de pas seulement soigner le problème d'érection.
Alors à vous entendre, les difficultés d'érection après 50 ans pourraient être un signe avant-coureur de problèmes cardiaques ou au niveau du cerveau. Comment on l'explique ça ?
Eh bien, c'est parce qu'on pense que les artères au niveau du pénis, elles sont nettement plus fines que les artères du cœur ou du cerveau. Et donc, on a observé qu'en moyenne, elles sont rétrécies, elles sont touchées, elles donnent des signes 2 ans à peu près avant les artères du cerveau et du cœur. Donc, ça veut dire que si un homme de 50 ans a des pannes, c'est un signal d'alerte. On parle même d'un symptôme sentinelle et ça veut dire qu'il ne faut surtout pas attendre 2 ans pour voir un médecin parce que sinon on aura peut-être eu un infarctus ou un AVC au bout de ces 2 ans.
Et pourtant, on en parlait déjà avec les médecins à côté de moi, quand un homme a un problème d'érection, eh ben, il hésite souvent à les consulter, il prend souvent son temps, car il faut avouer que ce n'est pas forcément facile pour lui de parler de problème d'érection.
Non, c'est vrai, moi je vois ça tous les jours. C'est vrai que c'est difficile de consulter pour un problème d'érection, mais ce qu'on est en train d'expliquer, j'espère que ça va faire prendre conscience aux hommes qu'un problème d'érection, c'est beaucoup plus global. C'est pas seulement un problème de plaisir, c'est sa santé globale qui est en jeu et peut-être même sa vie. Et j'espère que ça va inciter des personnes, des hommes à consulter plus rapidement ou leurs femmes à les inciter à consulter plus rapidement.
Alors quel type de bilan doit-on faire lorsqu'on est un homme de 50 ans avec et qu'on a des problèmes d'érection justement ?
Alors la première chose que doit faire un médecin qui reçoit un homme de 50 ans avec des problèmes d'érection, c'est un bilan cardiovasculaire. L'idéal, ce serait de voir un médecin cardiologue. Et donc le médecin va étudier l'état de ses artères et comme on en a parlé, d'avoir s'il a des facteurs de risque cardiovasculaire, les soigner pour faire de la prévention s'il en a. Et donc il va essayer de faire de prévenir l'infarctus ou l'AVC. Et bien sûr, ça va être aussi bénéfique pour ses érections, parce que si vous avez des meilleures artères au niveau du cœur et du cerveau, vous en avez aussi des meilleures au niveau du pénis.
Question, attention, vous êtes en présence de cardiologue. Hein. Le oui. médecin cardiologue peut-il soigner ses problèmes d'érection par la même occasion ?
Oui, bien sûr, le médecin cardiologue ou même le médecin généraliste, hein, il va soigner bien sûr les facteurs de risque cardiovasculaire et bien prévenir, et il va aussi en parallèle soigner les problèmes d'érection. Mais la priorité, c'est quand même la prévention des infarctus et des AVC, parce que c'est la vie qui est en jeu, pas seulement le plaisir.
Et très rapidement, Catherine, qu'en est-il concernant les femmes ?
Eh bien, c'est plus compliqué parce que quand une femme a les artères sexuelles qui se rétrécissent, ça provoque une sécheresse vaginale. Et le problème, c'est que ça apparaît très souvent à la ménopause, même chez les femmes qui ont des artères en bon état. Donc, c'est très difficile de faire la part des choses. D'autant plus que chez les femmes, souvent, les problèmes cardiovasculaires apparaissent plutôt à 60 ans, chez les femmes qui n'ont pas de facteurs de risque. Par contre, chez celles qui ont des facteurs de risque, c'est aussi aux alentours de 50 ans, pardon, voire avant, comme disait le professeur Laila Abi tout à l'heure. Donc, c'est plus difficile de se baser sur un symptôme sexuel pour penser aux problèmes cardiaques ou d'AVC.
Merci, merci beaucoup Catherine Solanon. Vous retrouvez évidemment la semaine prochaine pour une autre chronique sexualité. Merci à tous les trois d'être passés dans ce studio. Je suis désolé docteur, on n'a absolument pas le temps. Je n'ai pas le temps de vous redonner la parole. Très bonne journée, bonne conférence. C'est 28e journée. Et puis moi je vous dis à demain, au revoir.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.